Elle est en place. C'est la poudre.
Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat.
Tiens, on a découpé une femme.
I am a feminist.
Je vous obsède avec une constance.
Je ne me suis pas conduit d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite.
I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist.
C'est enfermant pour tout le monde.
Le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule.
Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas de quoi qu'elle marque.
Bienvenue.
Entre subjectivité et révolution.
Boum. Poudre.
This is your last chance to enter the Ohio Lottery's Fun Turns 50 promotion. Score $3,500 and two tickets to the epic party at the Rock and Roll Hall of Fame, where you could win part of another $400,000 in cash prizes. Enter the new 50th anniversary scratch-off, or $50 worth of eligible non-winning $5 or $10 scratch-offs, and My Lotto rewards through the Ohio Lottery app. Hurry up! The last entry deadline is May 13th. Lottery players are subject to Ohio laws and commission regulations. Play responsibly.
Je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode « Les Avengers du féminisme, la révolution médiatique ».
Bon, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est le mot « libération de la parole ». Je pense que si je vois encore un titre de presse marqué « libération de la parole », je pète un câble, parce que je ne comprends pas en fait, que la presse n'ait pas compris que les femmes, les hommes victimes, enfin les victimes, ont le plus souvent... déjà parlé, elles sont confiées à un conjoint, un proche, un collègue. C'est plutôt l'écoute qui doit se libérer.
Ce jour-là, elles étaient cinq autour des micros dans le studio. Marine Turki, Axel Jahn-Jiké, Charlotte Pudlowski, Daphné Gastaldi et Lorraine de Fouché. Elles sont journalistes et ou productrices de podcasts. Par leur travail, toutes ont fait ces dernières années plus bouger les lignes sur les violences sexuelles que toutes les instances politiques réunies. On a pu se voir dans un vrai studio, et ça faisait du bien, même si c'était un peu triste, parce que cette table ronde, normalement, aurait dû avoir lieu au festival Longueur d'onde, qui a malheureusement dû être annulé en raison des contraintes sanitaires. Sur Twitter, quelqu'une a tout de suite réagi à l'annonce de cette table ronde en s'exclamant « Les Avengers du féminisme ». Et comme on a besoin de rire un peu, aussi, j'ai choisi ce titre pour l'épisode. Merci encore, Pauline. Oui, parce que bon, les sujets évoqués dans ce podcast sont ceux de leurs enquêtes respectives. Le viol, l'inceste, les violences de genre. Donc, petit trigger warning, écoutez-le dans de bonnes conditions. Même si, rassurez-vous, il n'y a rien de graphique. On parle surtout de leur pratique de journaliste. Et c'est passionnant. Avec mes invités, on a parlé... de silence, d'écoute et de self-care. C'est un moment très particulier que je vis là, maintenant, tout de suite, parce que nous sommes en février 2021, ça fait presque un an que la plupart de nos interactions sociales sont distanciées, et j'ai sous mes yeux, pour de vrai, autour d'une table, dans le studio L'Arrière-Boutique, cinq vrais corps, des yeux, des bouches masquées, des mains que je pourrais toucher, ceux de cinq femmes journalistes et ou productrices de contenu qui ont œuvré à la prise de conscience autour des violences sexistes et sexuelles qui a commencé dans le monde entier à l'automne 2017 avec le mouvement MeToo. Œuvrer, le mot est faible. Sur Twitter, où nous avons annoncé cette table ronde, quelqu'une vous a qualifié des Avengers du féminisme. Et ça vous va bien. Donc j'ai commencé par toutes vous saluer. Bonjour Charlotte Pudlowski.
Bonjour.
Bonjour Marine Turki.
Bonjour.
Bonjour Daphné Gastaldi.
Bonjour, ravie d'être là.
Bonjour Lorraine de Fouché.
Bonjour.
Bonjour Axel Jahn-Jiké.
Bonjour Lorraine.
Avant d'attaquer, je voudrais prendre un moment pour énumérer vos accomplissements. Une façon de rappeler l'ampleur des faits de viol, de féminicide, d'inceste et de pédocriminalité que vous avez mis à jour. Des faits de violence masculine, car ce sont les hommes qui les commettent, rappelons-le haut et fort. Mais aussi une façon de les mettre de côté, ces faits. Parce que ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est moins le fond que la forme, c'est le comment. Comment le journalisme d'investigation donne au mouvement MeToo une force que le système pénal semble incapable d'apporter. Comment vous, en tant qu'enquêtrice, vous avez accompli l'un des gestes les plus déterminants dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, recueillir et transmettre la parole des victimes et des témoins. Cette parole, elle prend aux tripes dans ton podcast, Charlotte Pudlowski. Tu es cofondatrice du studio de podcast Louis Média. Et tu as sorti en septembre « Et peut-être une nuit », une série documentaire sur l'inceste qui part de la découverte d'un fait intime. Ta propre mère en a été victime. Ton travail a connu un grand retentissement car il met les mots sur, comme tu le dis, l'ampleur du problème, qui est le titre d'un des épisodes. Une personne sur 10, en France au moins, est concernée par l'inceste, un mot qui désigne des gestes sexuels accomplis sur une personne mineure par un membre de sa famille directe, parents, grands-parents, beaux-parents, oncle et tante, frère ou sœur. Tu poses le problème avec une clarté confondante, tu dis « le tabou de l'inceste, ça n'est pas de l'accomplir, mais d'en parler ». Bienvenue Charlotte.
Merci.
C'est la même thématique de l'inceste à laquelle tu t'es attelée, Axel Jeanne Djiké, avec ton podcast « La fille sur le canapé » à écouter sur le flux intime et politique du studio Nouvelles Écoutes et sur lequel j'ai eu l'honneur d'un peu t'accompagner. Tu es toi aussi partie d'un traumatisme intime. La fille sur le canapé, c'est toi. Et tu as choisi d'angler ton approche sur les violences sexuelles subies enfant par les femmes noires. Car le silence, l'invisibilisation pèse encore plus lourdement sur certaines victimes et sur certaines familles. Bienvenue Axel.
Merci Lorraine.
Lorraine de Fouché, tu es journaliste au Monde, en charge notamment des violences sexistes et sexuelles. Tu fais partie de la cellule d'investigation qui a été créée par Le Quotidien en mars 2019 pour enquêter sur les féminicides conjugaux en France. Tu as co-réalisé un documentaire poignant. Je ne m'en remets pas tout à fait de ce documentaire que j'ai regardé il y a quelques jours. Il s'intitule « Féminicide ». Il a été diffusé en juin 2020. Et tu enquêtes, tu relis les points entre les meurtres de 5 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2019. Merci d'être ici, Lorraine.
Merci, Lorraine.
C'est parce qu'il faut montrer les récurrences de schémas pour révéler ce qui fait système que tu enquêtes, toi aussi, Daphné Gastaldi. Tu as cofondé en 2014 We Report, un collectif de journalistes indépendants lyonnais. Tu as coécrit un livre sur les violences pédocriminelles au sein de l'Église catholique, Église, la mécanique du silence. Et tu viens de co-réaliser pour Disclose le revers de la médaille, une enquête qui s'écoute notamment en podcast, sur les violences sexuelles sur mineurs dans les clubs de sport, concernant 77 cas partout en France, dans lesquels tu révèles les manquements répétés des instances sportives et leur échec à protéger les enfants d'agresseurs qui sont bien souvent récidivistes. Merci d'être ici, Daphné.
Merci, c'est rare, une table ronde, il faut dire.
C'est vrai qu'elle est belle. J'ai face à moi Marine Turki, journaliste d'investigation à Mediapart. Tu es l'autrice de ce qu'on ait eu de plus proche en France en termes d'impact et de retentissement médiatique de l'affaire Harvey Weinstein aux États-Unis, les révélations d'Adèle Haenel concernant les abus sexuels que lui a fait subir adolescente, que lui aurait fait subir adolescente le réalisateur Christophe Ruggia. Tu as également enquêté sur les affaires Luc Besson, Gérald Darmanin, Tariq Ramadan, mais aussi révéler des affaires de viols et d'agressions sexuelles moins médiatiques, par exemple au sein des équipes de nettoyage de la Gare du Nord ou de la section parisienne de la CGT. Merci pour tout ton travail et merci d'être là, Marine.
Merci. Alors, c'est un travail collectif à Mediapart, je le précise, dans un certain nombre d'affaires.
Tout à fait, il y a une cellule d'investigation qui œuvre grandement à toutes ces questions. Bon, j'arrive enfin au bout de cette immense introduction pour vous poser ma première question. C'est une enquête de journaliste qui a permis de faire éclater MeToo, celle de deux reporters de New York Times au sujet des violences commises par Harvey Weinstein sur plusieurs actrices d'Hollywood. Ma première question, est-ce que les médias font ce que la justice ne fait pas contre les violences sexuelles? Et je voudrais peut-être commencer par toi, Marine.
On est souvent aussi accusé de tribunal médiatique et donc je trouve que c'est intéressant de commencer par là pour expliquer ce que peuvent les journalistes sur ces dossiers-là. On n'est pas policier, on n'est pas magistrat, c'est pas à nous de décréter si les gens sont coupables de tel ou tel acte. En revanche, c'est notre travail d'utilité publique de faire émerger des faits qui recouvrent des crimes et des délits, de montrer aussi tout ce qui sous-tend ces affaires-là, la notion d'abus de pouvoir, de rapport de subordination, de rapport de hiérarchie. C'est tout ça qu'on essaie de raconter. Et je pense que bien sûr que l'afflux de dossiers qu'on reçoit toutes dans nos médias respectifs raconte quelque chose de l'échec de la justice dans ces dossiers. Mais on fait un travail qui est différent. Et c'est important de l'expliquer aux gens qui accusent souvent la presse d'être un tribunal médiatique. Non, on fait en fait un travail de mise en contexte aussi et de raconter ces affaires dans leur ensemble. C'est-à-dire de raconter ce qui a été le contexte, de raconter la notion de rapport de pouvoir, de raconter aussi les conséquences qu'ont ces affaires sur les personnes. Et ça, c'est ce qui me semble le plus important, parce que ces affaires, elles ont des conséquences directes, indirectes, sur la vie des gens, sur leur travail, sur leur famille. On en parlera. Donc, je pense que ça, c'est l'importance du travail d'utilité publique de la presse, et qui est un travail distinct de celui de la justice. Et moi, je défends qu'on fait des enquêtes aussi d'initiative sur ces sujets. C'est-à-dire qu'on ne va pas être collé au camion judiciaire. Moi, ça ne m'intéresse pas tellement de savoir s'il y a une plainte de déposer ou pas. Moi, je fais un travail d'enquête qui est journalistique, de retrouver les témoins de l'époque, de retrouver les victimes, éventuellement un mode opératoire, parce qu'il y en a souvent dans ces affaires-là. Et c'est un autre travail. Donc moi, je ne suis pas collée à savoir s'il y a une plainte ou pas. Et je trouve que d'ailleurs, on devrait s'en décoller au maximum et faire nos enquêtes d'initiative, de retrouver un certain nombre de protagonistes, de témoins, etc. Donc c'est ça qui m'importe, de montrer la différence de ces enquêtes journalistiques. Mais c'est certain que beaucoup de gens aujourd'hui se tournent davantage vers la presse et attendent aussi quelque chose. Il y a certaines qui veulent une forme de name and shame. Tout ça, ça doit interroger. Mais en tout cas, il me semble que c'est important de ne pas faire figurer ces enquêtes à la rubrique faits divers et de les raconter dans leur entièreté et avec ce qui se passe avant et ce qui se passe après.
Mmh. Et c'est un travail de longue haleine, forcément.
C'est un travail qui prend des semaines, des mois, parfois même plus d'un an. C'est important de le dire parce que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Mmh. Et je le comprends, notamment les gens qui nous écrivent. En réalité, une enquête, on sait quand est-ce qu'elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. Et c'est important de dire que sur, on va dire, 10 enquêtes, il y en a peut-être une ou deux qu'on va publier. Et le reste, on ne va pas toujours être en mesure d'aller au bout. Et c'est important de souligner ça parce que ce sont des enquêtes difficiles, ce qui explique qu'il n'y en ait pas tant que ça, notamment des enquêtes d'initiative dans la presse. Elles sont difficiles, elles sont délicates à mener, bien sûr, mais elles sont importantes. Et en réalité, vous savez quoi, on n'utilise pas tellement des méthodes d'enquête journalistique différentes que sur une enquête sur la corruption ou sur une enquête sur d'autres choses. Et c'est important de le dire parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non, mais c'est des enquêtes spéciales, c'est très bien si tu fais ça, parce que tu sais faire. » Non, en fait. On enquête là-dessus comme on enquête sur... moi, j'ai travaillé sur les financements du Front National, sur l'affaire Benalla. Ce sont les mêmes méthodes, à la différence près que dans nos interactions avec les gens. Oui, il va falloir être un peu plus délicat parce qu'on ne manie pas des dossiers, on ne manie pas des numéros, on manie la vie des gens et des choses qui ont touché les gens le plus souvent dans leur chair, dans leurs histoires familiales, professionnelles, intimes. Donc, c'est important de manipuler ça avec précaution. Mais je pense que pour le reste, ce sont des enquêtes journalistiques normales.
Mmh. Alors pour faire ce genre d'enquête, il faut des moyens et je me tourne vers Lorraine de Fouché. Enfin, Le Monde fait partie avec Mediapart des rares médias qui ont réellement mis en place des moyens délégués, des personnes qui sont chargées à temps plein d'enquêter sur ces sujets-là. Quel est le rôle d'un quotidien comme Le Monde et du travail de vous et de vos confrères, consoeurs dans cette lutte contre les violences sexistes et sexuelles?
Alors, il n'y a pas de division spéciale au sein du journal là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poste dédié, il n'y a pas de... Enfin, c'est plus une réflexion qui irrigue un peu toute la rédaction. C'est issu, effectivement... Enfin, il y a eu le projet féminicide qui a été lancé donc en 2019, et ce projet, il a été très collectif, a permis de former tout un tas de journalistes de la rédaction à ces sujets-là, et ça nous permet derrière d'avoir peut-être une acuité plus précise, parce que effectivement, même si, comme le disait très bien Marine, ce sont des techniques d'enquête qui sont finalement assez proches des techniques d'enquête que peut y avoir sur le politico-financier ou sur tout un tas de trafic d'armes, de stupéfiants. D'ailleurs, nous, les sujets sont faits au sein de la rubrique enquête, mais après, il y a quand même ça reste pas une spécialité, mais ça reste une comme on peut dans une rubrique avoir un regard parfois un peu plus précis, un peu plus de mieux lire certains dossiers, parce que c'est vrai que ça reste une matière où il y a beaucoup de mythes qui circulent dans l'inconscient collectif, et quand on arrive sur une affaire, soi-même, on peut avoir le regard et la pensée un peu polluée par ces mythes-là, parce qu'on est dans le même bain sociétal que ces gens-là. Et donc, il y a un travail aussi de déconstruction en tant que journaliste, dans la lecture de tout un tas de faits. Et c'est vrai que nous, d'avoir développé ce projet féminicide, ça a permis d'un peu dépolluer nos regards sur certains points, et peut-être d'avoir une meilleure acuité. Enfin, après, ça, c'est pas à moi de le
décider. Y compris sur le mot, hein. Je pense que, enfin voilà, je sais qu'il y a encore 4 ou 5 ans, les féministes devaient lutter pour qu'on emploie ce terme féminicide. Je pense que dès l'instant où il s'inscrit en Une du Monde, le débat était clos. Il y a ce rôle-là aussi qui est
oui,
important.
Mais que ça, ce que vous dites sur le mot féminicide en Une du Monde, il y a eu cet écho-là aussi assez récemment quand, sur l'inceste, quand il y a eu la manchette qui a été faite, qui a été un choix fait par Luc Bronner. Et c'est intéressant parce que ce choix-là, il est fait 2 mois avant le livre de Camille Kouchner. Donc il y a une espèce de continuum qui se met en place. Et c'est vrai que le monde a ce... Et moi-même, ça m'étonne, mais il y a ce côté chambre d'enregistrement des faits sociétaux qui est assez fascinant, même à observer en tant que personne dans cette machine-là, de voir que, oui, d'écrire féminicide, bon, on m'a beaucoup dit que la une sur les féminicides avait beaucoup participé au fait que les institutionnels s'approprient plus le mot. Mmh. Et c'est vrai que c'est une responsabilité qui peut parfois être un peu écrasante, mais c'est un espace intéressant pour travailler pour ça, oui.
Si j'osais poser la question des médias qui substituent à la justice, c'est que souvent dans vos enquêtes, vous avez face à vous des victimes qui ont essayé de faire appel à la justice sans effet. Et je me tourne vers toi, Daphné. Dans ton enquête sur les violences sexuelles sur mineurs dans le milieu du sport, on tombe sur des parents qui ont alerté des gendarmeries, qui ont alerté des mairies, des autorités sans effet et qui se retrouvent à compter que sur eux-mêmes et sur toi.
Alors c'est vrai, c'était aussi une enquête collective. En fait, on n'a pas les mêmes pouvoirs que la police. En revanche, on est souvent le dernier recours pour les familles, notamment quand une affaire a été classée sans suite ou qu'il y a la prescription. Donc Marie le disait, on n'a pas besoin forcément toujours d'une plainte pour pouvoir nous accélérer et creuser une enquête. Et au contraire, parfois, nos enquêtes journalistiques ont permis à la justice de se saisir des affaires et d'ouvrir des procédures. On a travaillé sur les violences sexuelles dans l'église, puis dans le sport. Après nos enquêtes, nos publications, il y a des procès qui se sont ouverts et je me suis rendu compte que nos articles ont servi de pièces dans les dossiers d'instruction. Et c'est là où on se dit, on fait ce journalisme d'impact qu'on veut faire et ça fonctionne. Effectivement, on a ce pouvoir-là, on n'a pas de pouvoir pour perquisitionner, on ne peut pas avoir de mandat, mais par contre, on a avec nos petits bras et nos cerveaux et beaucoup de ténacité, on arrive à tirer le fil d'une histoire, retrouver des victimes, voir le combat des familles. Et Lorraine, tu faisais allusion à ce podcast, donc Les Mères mènent l'enquête qu'on a réalisé pour Disclose avec Binge Audio. Et c'est vrai qu'il y a tout ce combat des familles qui se sont rendues compte qu'on leur imposait un silence dans les mairies, dans les associations, on leur disait « chut ». Elles le disent dans le podcast « chut ». Il ne faut pas parler. Il faut d'abord avancer, sauf que la justice est lente, trop lente à leur goût, et que le professeur de gymnastique qu'elles accusaient était toujours en poste, par exemple. Et parfois, le travail journalistique permet aussi de faire accélérer le travail de la justice, ce qui a été le cas dans cette affaire qui se passait dans le Tarn-et-Garonne. La publication de l'enquête a considérablement accéléré le travail de la gendarmerie et de la justice sur place. Et il y a surtout beaucoup plus de victimes qui ont parlé ensuite, parce que nos articles font souvent des appels d'air. Des victimes, des appels de sources, des victimes se tournent vers nous et ils nous disent « mais en fait, nous aussi, on connaît ce professeur de gymnastique ». Et donc, il y a cet effet aussi amplificateur sur certaines affaires qui est considérable.
Mmh. Et il y a l'amplification aussi dans l'opinion publique. Et sur cette question de l'inceste, je pense qu'il y a vraiment eu une espèce de mouvement, beaucoup d'objets culturels, médiatiques qui sont apparus en même temps dans l'espace public. Je me tourne vers toi, Axel, et puis je te poserai aussi la question ensuite, Charlotte. Enfin, est-ce que tu as été surprise de voir émerger cette conversation sur l'inceste qui avait enfin lieu suite à vos différents podcasts? Et puis surtout, et c'est intéressant, suite à la publication du livre de Camille Kouchner qui révèle les agissements d'Olivier Duhamel sur son frère.
Alors, je vais être totalement sincère, surprise, non. C'est pour ce qui me concerne, c'est une conversation qui m'occupe, m'intéresse, fait partie de ma vie depuis plus d'une décennie, parce que une de mes meilleures amies qui s'appelle Pauline Ekambi, qui est une internationale de basket, qui est la première femme noire à avoir intégré l'équipe de France, qui a son actif le plus grand nombre de sélections en équipe nationale de basket, qui est aussi une vraie figure pour un certain nombre de jeunes filles, était venue parler dans mon premier podcast, Mima Sex and I, sur l'intimité des femmes noires, de l'inceste qu'elle avait subi de la part de son père. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Et à l'époque, cet épisode-là, moi, m'avait valu énormément de messages en MP, mais à un point où je m'étais sentie oppressée, vraiment, en me disant, bon, bah, écoute, Ce sujet-là concerne plein de gens, mais ça a l'air d'intéresser personne. Pourquoi ? Pauline, elle, de son côté, a eu des messages aussi et a ruminé pendant 3 ans voilà, la manière dont elle pouvait être une voix qui compte sur cette question-là. Elle vient de le faire, elle vient d'accorder à nouveau à l'équipe une interview et elle devient ainsi la première athlète française à parler d'inceste. Et elle s'engage sur cette voie-là de la parole. Mais moi, ça a mis le temps, quoi, en fait. Je trouve que ça a mis le temps. Donc, je suis à la fois... Il y a une part de moi qui est évidemment contente que ça arrive sur la place publique. Mais il y a aussi une part qui est enragée que ça ait pris autant de temps. Mmh. Voilà. Ouais. Donc, je ne peux pas faire une meilleure réponse en fait, que celle-là.
Mmh. Bah, ce que tu soulignes dans ton podcast, Charlotte, c'est que finalement, on redécouvre perpétuellement l'inceste. Quoi. Quand tu commences à enquêter sur le sujet, tu te rends compte qu'il y a dans notre environnement des tonnes de livres, de disques, de films qui évoquent ce sujet et puis qu'à chaque fois, on a l'impression d'oublier. Est-ce que tu as l'impression que cette fois, c'est pour de bon ?
Franchement, j'en ai aucune idée. C'est une question que je me pose énormément en ce moment, de savoir est-ce que c'est une vraie sortie du silence ou est-ce que il y aura un effet de backlash comme il y en a très régulièrement sur différents sujets du féminisme. Après, j'imagine que de toute façon, les backlash, c'est toujours 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On voit le pas en arrière, mais on gagne quand même des avancées. Et c'est vrai que Eva Thomas, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, qui est la première femme à avoir parlé publiquement d'inceste à la télévision en 86, elle m'avait dit, moi, en interview, en 86, j'ai cru que c'était bon, on en parlait publiquement, et puis ensuite, il y a eu un recul, et puis ensuite, il y a eu de nouveaux débats avec des nouvelles prises de parole politiques, et puis ensuite, on reculait. Donc je sais pas du tout si c'est une vraie avancée ce qui est en train de se passer. En revanche, moi ce que je me dis depuis quelques semaines et ce qui correspond un peu à ce que dit Axel aussi, c'est que j'ai le sentiment que chaque prise de parole en appelle d'autres. Et c'est ce que Adèle Haenel raconte dans ton papier Marine, où je crois qu'elle dit que c'est notamment le documentaire sur Michael Jackson, où elle s'est dit en fait là il faut que je parle. Camille Kouchner, elle dit que le livre qui est sorti chez Gallimard là, qui s'appelle La Fabrique des Pervers a été une source d'inspiration énorme pour son travail. Et on a vu depuis, moi ça fait un peu plus de 10 ans que je suis journaliste je crois, et en fait on a commencé à parler des violences sexuelles avec le harcèlement de rue. Et moi je me souviens très bien, il y a eu ce documentaire qui avait été fait par une journaliste belge ou une femme belge, je ne sais plus, et qui disait, voilà, qui parlait du harcèlement de rue. Et puis ensuite, il y a eu les violences dans le monde professionnel, avec notamment l'affaire Weinstein. Et ensuite, ça s'est allé sur les violences, non pas intrafamiliales, mais presque, c'est-à-dire l'école sportive, un réalisateur qui est comme un ami de la famille. Et donc, c'est des cercles qui sont presque la famille. Et aujourd'hui, ce qu'on voit avec l'inceste, c'est vraiment le noyau de ces violences-là. Donc, je ne sais pas si ça permet une prise de conscience durable et définitive, mais en tout cas, il me semble que ce mouvement-là montre qu'il y a une avancée en lame de fond qui, elle, est, je crois, plutôt positive.
Il y a quand même une spécificité très forte dans toutes ces thématiques, c'est qu'il faut faire parler des victimes. C'est ce que tu fais, toi, dans ton podcast. Je reste un petit peu avec toi, Charlotte, parce que je sais que tu portes un intérêt très, très fort à la prise de parole. Tu en as même créé un podcast, Fracas, qui parle vraiment de ça. Comment on parle, comment on ne parle pas, pourquoi on parle, pourquoi on ne parle pas. Est-ce qu'il y a une façon particulière d'aller recueillir pour toi, surtout en audio, la parole d'une personne qui a été victime de violences sexuelles ou d'inceste ?
Je pense qu'il y a plein de manières différentes. Moi, j'ai fait un apprentissage qui a été hyper important pour mon travail. C'est il y a quelques années, avant de faire Ou peut-être une nuit, je faisais un épisode d'un autre podcast qui se trouve était sur... cet épisode-là était sur l'inceste, mais c'était vraiment un hasard. J'allais rencontrer une femme qui devait me raconter son histoire, qui m'avait dit j'ai une histoire, etc. Et puis bon, il se trouve que c'était... Bon, probablement pas un hasard en fait, mais quand même un hasard. En tout cas, je croyais que c'était un hasard. Et bref, j'avais fait cette interview et c'est quelqu'un qui m'avait beaucoup séduite. C'était une femme qui est devenue une amie d'ailleurs depuis, mais qui était très impressionnante, très brillante, avec une présence hyper magnétique. Et à la fin de l'interview, elle m'avait dit... je suis hyper contente d'avoir pu te parler à toi. J'ai pu le dire à... Ce que je viens de te raconter...
aucune personne dans ma vie ne le sait en entier. Parce qu'en fait, parler à mes proches, ça leur fait toujours du mal. Ils se mettent à pleurer, ou délibérément, ils ne veulent pas entendre. Mais même quand ils veulent bien entendre, en fait, ils sont tellement émus qu'elle se dit... Enfin, il n'y avait pas la place pour ses émotions à elle, pour sa souffrance à elle, etc. Et puis elle m'avait dit, et d'ailleurs je suis très contente qu'on ne se revoie plus jamais, parce que comme ça tu peux juste garder cette histoire et j'aurais pas à vivre avec le fait que tu la connais. Bon, il se trouve que quand même on est devenus amis. Mais ça m'est vachement resté en tête, ce truc de laisser l'espace émotionnel libre pour la personne qu'on interviewe. Et c'est pas évident, parce qu'en fait, rationnellement, on se dit bah oui, évidemment. Mais en fait, quand on est face à quelqu'un qui a subi des violences et qui est traumatisé et qui souffre énormément, c'est vachement dur quand même de pas avoir les larmes aux yeux quand on entend... Moi, je pense à Julie, par exemple, que j'ai interviewée pour peut-être une nuit, qui était tout juste en train de sortir du silence, qui était une des personnes les plus jeunes que j'ai interviewées, qui n'est pas du tout un bébé, hein, elle avait plus de 25 ans, mais je veux dire, elle est encore vraiment dans une période de construction de sa vie et voilà, de sortie du silence. Et en plus, c'est quelqu'un qui avait une voix très particulière, dont on sentait l'urgence. Et c'est difficile quand même de pas avoir les larmes aux yeux et de pas, parce qu'on est en empathie avec les personnes. Et en tout cas, moi, ce que j'ai appris, c'est d'essayer de mettre mon empathie, pas dans ma poche sur le fond, mais en tout cas sur la forme, et d'être plus discrète avec mes émotions à moi pour essayer de laisser la place à la personne que j'interview. Moi, je crois que c'est le plus gros apprentissage que j'ai fait pour ce sujet-là, en tout cas.
Marine Turki, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as interviewé à la fois des victimes très visibles, très puissantes, comme Adèle Haenel, qui a choisi de te parler après quasiment 15 ans de silence, mais aussi des victimes beaucoup plus précaires, beaucoup plus anonymes. Je pense notamment au personnel de nettoyage de la Gare du Nord. Est-ce que tu vois un point commun entre toutes ces victimes dans la faculté ou non à parler ?
Bah déjà, il y a un point commun dans les conséquences qu'elles ont dû subir, même si elles ont des statuts sociaux, comme tu dis, très différents. Mais surtout, dans les deux cas, il faut un temps long pour parler, et y compris aux journalistes. C'est-à-dire, il faut s'imaginer ce que c'est quand même de laisser sa vie, son récit en main à un ou une journaliste. Et moi, je suis toujours très surprise de ce travail que font les victimes, déjà de venir nous contacter ou d'accepter de nous rencontrer, mais ensuite de donner leur vie. Adèle Haenel, elle me donne accès à ses journaux intimes concrètement pour que je retrouve les passages qui concernent Christophe Ruggia. La plaignante de l'affaire Besson, elle me confie son rapport médical qui fait état de lésions, de marques sur le corps, des photos d'elle. Enfin, c'est des choses ultra intimes. Elle donne accès à leur famille, à... Donc tout ça, c'est quand même, je trouve, un courage énorme. Et les gens ont l'air de penser, souvent, en tout cas les détracteurs du mouvement MeToo ou de ces sujets, que finalement, ce seraient des hordes de femmes qui veulent se venger, etc. Non, c'est un processus extrêmement long et difficile de confier son récit, que ce soit à la justice ou que ce soit à la presse. C'est pas un long fleuve tranquille. On va les, entre guillemets, les embêter, les victimes, parce qu'on va leur poser des questions sur d'éventuelles contradictions de dates, de choses comme ça. On va se poser toutes les questions. Je pense juste qu'il y a un temps pour les poser. Il y a le temps de l'écoute et il y a le temps, dans d'autres rendez-vous, de la vérification, parce qu'il faut poser toutes ces questions. Donc, ce n'est pas si évident. Et qu'on soit puissant ou pas puissant, il y a des conséquences qui sont différentes, évidemment. Mais même quand on est Adèle Haenel, il y a des conséquences. Et même si c'est des conséquences qui ne sont pas visibles ou notoires ou publiques, il y a des conséquences. Et donc, c'est difficile de parler et ça reste difficile de parler. Après, il y a quelque chose qui m'énerve, c'est le mot « libération de la parole ». Je pense que si je vois encore un titre de presse marqué « libération de la parole », je pète un câble. Parce que je ne comprends pas en fait, que la presse n'ait pas compris que les femmes, les hommes victimes, enfin les victimes, ont le plus souvent... déjà parlé, elles sont confiées à un conjoint, un proche, un collègue, etc. Donc, le plus souvent, les gens ont reçu cette confidence avec une certaine gêne ou ne sachant pas quoi faire. Donc, c'est plutôt, on le dit souvent en ce moment, et j'espère que ça commence à rentrer, c'est plutôt l'écoute qui doit se libérer. Mais pour revenir à ce qu'on disait juste avant, je crois que ce qui change, et ça c'est positif, c'est qu'il y a des termes, il y a des concepts, il y a des notions qui commencent un petit peu à rentrer dans le crâne des gens. Par exemple, la notion d'emprise, la notion de rapport de pouvoir, la notion d'amnésie traumatique. Ça peut paraître être des mots un peu valises, des mots-clés, mais en fait, ça dit tellement de choses. Et ça permet tellement d'expliquer, par exemple, que la victime, elle soit retournée voir son agresseur ou qu'elle ait renvoyé un SMS derrière. Parce que ça, c'est quelque chose, il y a 10 ans, et on le voit quand on étudie des dossiers judiciaires, alors là, que ce soit les policiers ou l'entourage, c'est incompréhensible pourquoi elle l'a recontacté, pourquoi elle l'a revu. En réalité, bah nous, on ne met pas ça sous le tapis dans nos enquêtes. On l'écrit, on le dit, et on donne la parole aux victimes qui expliquent pourquoi. Et ça permet tout ça de faire une pédagogie. Et je crois que c'est notre rôle de journaliste de faire cette pédagogie aussi. On a une responsabilité énorme en tant que journaliste de faire cette pédagogie, de raconter ces histoires en long, en large et en travers, quel que soit le statut des gens, pour pouvoir avancer là-dessus. Moi, il me semble important de marcher sur deux jambes et de faire autant des dossiers avec des gens connus, comme tu le disais. Alors, il y a eu Adèle Haenel, il y a eu côté mis en cause Luc Besson, Gérald Darmanin. Mais à côté de ça, on fait des tonnes de dossiers qui sont moins médiatisés, qui ont moins d'écho. Mais moi, j'ai travaillé un an, par exemple, sur une école maternelle où plusieurs enfants ont dénoncé des violences sexuelles qu'ils auraient subies de la part d'un animateur. Ça, c'est un article qui a tourné parce qu'en fait, tout le monde a des enfants à l'école. Et tout le monde s'inquiète pour ça et tout le monde se questionne sur comment on parle aux enfants de ces sujets. Donc, je crois que notre travail, il est là et que ces affaires, elles racontent toutes des choses, que ce soit Adèle Haenel ou que ce soit les ouvrières du nettoyage de la gare du Nord.
Je me rends compte en t'écoutant que ce rôle journalistique, il est aussi de favoriser la prise de parole. Et j'imagine que plus ces notions d'amnésie traumatique, etc., que tu viens de rappeler, rentrent dans l'espace public, plus les victimes se sentent habilitées à parler. Et je me tourne vers toi, Axel, parce que pour avoir travaillé avec toi très en amont sur ton documentaire, je sais que c'était ce que tu voulais déclencher sur la parole spécifiquement des femmes noires, où les conséquences sont peut-être encore plus lourdes que celles que vient de décrire Marine, parce qu'il y a aussi énormément de... j'allais dire, de peur, de stigmatiser, de pression intracommunautaire. Est-ce que toi, t'as essayé de convaincre ces femmes de te parler à ton micro en leur disant « vous allez aider d'autres à parler ?»
Je n'ai pas eu besoin de le faire. Elles sont venues d'elles-mêmes, en fait. Moi, quand j'ai mis en ligne l'appel à témoignage, elles étaient prêtes et contrairement à Charlotte, je ne crois pas au hasard, je crois aux synchronicités. Et je savais que celle qui viendrait serait exactement celle que je devais interviewer. Donc c'est, j'étais moi dans une posture très différente de vous toutes ici, parce que je ne suis pas journaliste en fait, moi je suis une autrice, je suis une artiste, je l'ai fait à partir de mon propre vécu et je voulais juste faire caisse de résonance parce que j'avais eu l'occasion déjà de l'évoquer. Et je savais qu'ensemble, on était plus fortes. Et ce que dit Charlotte à propos des cercles concentriques, moi, c'est ça qui me rend optimiste. C'est qu'on est enfin, on part enfin de l'intérieur pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est, ce facteur-là est extrêmement important culturellement pour moi. Et c'est un des facteurs aussi de la réalisation de ce documentaire, c'est que nous, on est issus de communautés dans lesquelles le groupe prévaut sur l'individu. Et au nom du groupe, au nom de la cohésion et du regard, enfin en tout cas de la manière dont on est censé se tenir par rapport au regard extérieur qui est, en gros, le regard blanc en général, il nous est plus ou moins interdit de faire part des abus, des outrages, des attaques qui peuvent avoir lieu au sein même du groupe. Et quand vous êtes des femmes, quand vous êtes des femmes noires, quand vous êtes des filles noires, cette injonction-là, elle est pire que tout. Le terme pour moi, c'est personne victime. C'est pas victime tout court, parce que l'agression, c'est un instant T dans notre vie. C'est pas ce qui nous résume. On est quand même des mères, des sœurs, des épouses, des membres de famille. Donc, l'agression est une chose, mais moi, je suis une personne victime. Je ne suis pas une victime. Voilà, juste si ça pouvait être plus souvent libellé de cette façon-là, ça aiderait beaucoup d'entre nous à s'emparer aussi du reste de nos identités. Et pour revenir à ce que je disais, c'est vraiment super important dans les communautés noires, d'avoir à un moment donné des femmes et des filles, parce que le premier témoignage qu'on entend dans le podcast est un témoignage d'une jeune fille qui a 17 ans, qui est Jessica. Et je peux vous assurer qu'il faut une sacrée paire d'ovaires pour venir témoigner à 17 ans, comme elle le fait dans le podcast. Moi, c'est ce moment-là où, quand on parlait de l'émotion, où il faut te tenir, j'avais beau être concernée par la question, j'avais beau... voilà, savoir que pour moi, ça allait être aussi très violent de réaliser un programme comme ça. Jessica m'a mis à terre parce que je me souvenais de moi à 17 ans et je ne comprenais pas où est-ce qu'elle allait chercher les ressources pour arriver sur mon canapé et dire « je veux le faire pour les autres filles comme moi qui écoutent ». Donc, il y a le travail que vous faites en tant que journaliste, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est important aussi aujourd'hui, c'est que les médiums qui s'emparent de ces questions-là soient aussi faits par des gens qui peuvent être concernés à d'autres endroits par cette question-là. Clémence Alzar qui fait violer une histoire de nomination sur LSD pour France Culture est également une personne concernée. Et elle permet d'appréhender à tout un chacun la question des violences sexuelles en fonction de l'orientation sexuelle. Parce que, en vérité, moi, je représente un groupe de personnes qui peuvent être concernées par cette question-là. Mais mon groupe à moi est infime par rapport à, quand on voit les statistiques, ce sont les personnes homosexuelles ou bisexuelles qui ont affaire le plus que mon groupe à moi aux violences sexuelles dans l'enfance. Et si on voulait dire la vérité, ce sont les personnes en situation de handicap, en fait, les premières concernées. Donc là, quand on est tout autour de la table, on n'est même pas représentative, en fait, des vrais, vrais chiffres et des vrais groupes. Donc l'idée, c'est d'avoir tout le monde dans cette conversation, c'est que tout le monde la rejoigne, parce que c'est seulement à ce prix-là qu'on se rendra peut-être compte que le vrai sujet de tout ça, c'est nos familles, en fait. C'est qu'est-ce qui se passe dans ces familles pour qu'on arrive à créer ou des agresseurs ou ne pas venir en aide à des personnes victimes qui font état d'agression. Moi, c'est ça. Ma motivation première pour faire ce podcast, c'était ça. Je voulais absolument pointer du doigt le cercle intime, en fait.
Pour rebondir sur le cercle intime, mais dans un sens très différent, je voulais terminer ce tour concernant le recueil de la parole avec vous, Daphné et Lorraine, parce que vous êtes allées plutôt voir des familles de victimes. Dans ton cas, Lorraine, tu as été voir les parents, frères, sœurs, collègues de femmes victimes de féminicide. Tu parlais aussi des parents des petites filles victimes de cet entraîneur sportif, Daphné. Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que tu n'es pas face à des personnes qui finalement attendent de toi que tu leur apportes quelque chose que la société n'a pas pu apporter, une réparation que la société n'a pas apportée à leur perte. Peut-être Lorraine, tu veux y aller ?
Non, moi, ce qui m'a marqué dans le tournage de ce documentaire, c'était l'intensité et la charge traumatique en fait de toutes ces interviews. C'est-à-dire que moi j'ai un souvenir déjà. Moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit à l'époque et que je ressens encore maintenant. C'est vraiment le courage de tous ces gens-là d'accueillir chez eux dans leur salon quelqu'un qui connaissent très peu pour leur parler de ce qui est en général le truc le plus difficile et anéantissant de leur vie. Et donc le courage, en plus, moi j'étais avec une caméra de télévision, donc c'est encore plus violent qu'un micro. Enfin, c'est une image qu'il faut assumer publiquement. Et d'avoir ce courage-là, de porter cette parole-là. Moi j'ai toujours eu énormément de respect et d'émotion au contact et de ça. Et c'est vrai que même en tant que journaliste, on se retrouve dans des positions où on est touché de plein fouet par ce qu'on peut apprendre dans nos écoles sur l'objectivité, sur le fait qu'on ne doit pas être trop proche de son sujet. Quand on est face à ça, il y a un vrai, pas conflit, mais il y a une dichotomie en tout cas entre la casquette professionnelle qu'on porte et tout simplement qui on est en tant que personne. Et voilà. Et moi, je me souviens de moments professionnel passionnant, mais humainement aussi très très bouleversant.
Comment on les traite, ces images-là? Il y a quand même un choix assez subtil qui est fait dans la réalisation du documentaire entre la pudeur et en même temps. Parfois, je me rappelle notamment de la collègue de Laetitia Schmidt qui raconte le coup de fil qu'elle a reçu pour lui annoncer, et comme elle voulait pas répondre à ce coup de fil parce qu'elle le savait. Et, enfin, moi, je sais pas, ça m'a rien. Voilà, j'en parle, j'ai les frissons qui se dressent, les poils qui se dressent sur le bras. Qu'est-ce qui fait décider de laisser ce moment-là? Parce que quel est le choix de journaliste qui se fait dire ça? Ça raconte, ça informe.
En fait, c'est moi ce que moi avec ce documentaire-là, comme il était diffusé sur France 2 à 20h50, à une heure de grosse audience, on savait. Enfin, moi, je savais, j'avais la responsabilité de me dire qu'on allait pouvoir toucher très large, c'est-à-dire que c'est vraiment un très gros canal Et il y a ce poids-là de se dire, voilà, il faut réussir à amener des gens qui sont loin, rétifs sur ces sujets-là, à prendre conscience de ce que c'est. Et en fait, on avait eu beaucoup de conversations au sein de la cellule là-dessus, c'est qu'il y a une gestion de l'effroi. C'est-à-dire que... Et c'est très difficile, parce que qui je suis pour décider la dose d'effroi qu'il faut, mais il y avait cette idée que moi, je ne voulais pas non plus effacer les moments d'émotion et être que dans du froid et que dans du clinique, parce que le féminicide, c'est vraiment l'horreur au sens c'est vraiment une blessure d'un niveau traumatique et d'anéantissement très fort. Donc il fallait qu'il y ait cette émotion là mais il fallait aussi pas griller le canal, c'est-à-dire que si l'effroi était vraiment trop fort, ça pouvait sortir le téléspectateur. Donc moi, sur la réalisation et le montage, je me suis toujours vraiment sentie sur un fil.
Je voulais qu'on parle aussi un peu de l'après, et peut-être que Daphné, tu peux nous éclairer sur ta propre expérience. J'ai entendu par exemple Marine expliquer que après la parution d'une enquête, il y a toujours un suivi avec les personnes qui ont parlé, savoir comment ça a été réceptionné, quelles sont les suites, éventuellement revenir avec un autre article. Est-ce que toi, les personnes que tu as interviewées dans le cadre de ton enquête, de tes enquêtes, tu continues de leur parler, tu as un suivi avec elles?
Oui, j'ai un suivi, notamment pour le podcast qu'on a fait pour Disclose, mais aussi dans l'envoyé spécial, on s'était attaché à suivre des familles. Leur combat face au silence de toute une communauté, que ce soit dans le sport ou aussi dans des enquêtes précédentes dans l'Église. Et là, dans le sport, il y avait donc ce silence de la communauté auquel elles étaient confrontées, et aussi leur combat dans une machine judiciaire qui est un véritable bulldozer. Hein. Il faut avoir les reins solides pour pouvoir vraiment décider de porter ce combat-là. Et forcément, c'était donc des familles où les enfants étaient encore mineurs. Je ne sais pas pour les autres autour de la table, mais nous, souvent, par exemple, là, dans le sport, on a eu entre 200 et 300 dossiers entre les mains. On a parlé que de 77 affaires qu'on a pu prouver, où on a pu prouver les dysfonctionnements. Mais sur la majorité de ces affaires, c'est des personnes devenues adultes qui, de façon spontanée, venaient nous voir ou qu'on retrouvait. Là, on avait un noyau familial qui voulait vraiment protéger les enfants. Et donc, on est allé chez eux. On a vu les enfants jeunes, mineurs, que ce soit dans le tir à l'arc, dans la gym, dans le judo. Et en fait, ces familles, ça a été vraiment un moment très important pour elles, parce qu'elles se mettaient vraiment, elles révélaient tout leur dossier, elles révélaient ce qu'elles avaient subi. Et ensuite, elles m'ont informé, elles m'ont donné des nouvelles, bien que les affaires, nous, les publications soient faites et qu'il y ait eu déjà un impact. Et encore récemment, j'ai reçu des messages pour me tenir informée de la procédure, où ça en est, s'il y a eu une garde à vue. Concernant l'affaire de gymnastique dans le Tarn-et-Garonne, c'est toujours assez émouvant quand je reçois un message parce que je sais ce qu'elles vont me dire. À chaque fois, il y a des nouvelles victimes qu'elles trouvent. Les mères de famille ont mené l'enquête, la procédure continue. Et là, le dernier message que j'ai reçu, c'était « Maintenant, on a une douzaine de parties civiles, mais on a identifié au moins 20 victimes. » Nous, quand on a commencé l'enquête, il y avait 7 petites filles identifiées et 7 parties civiles. Donc, elles sont aussi une forme de reconnaissance. Je pense qu'il y a eu l'impact souhaité. Et pour nous, c'est toujours hyper important de suivre, de se rendre compte, parce que ça donne aussi l'énergie de continuer. Et ça, c'est quand même des enquêtes lourdes. Et il faut avoir aussi, parfois, je trouve, ces retours pour avoir aussi un peu d'énergie pour continuer ce combat.
Mmh. Et c'est important qu'elle soit bien faite. Enfin, là, j'ai un petit peu tout qui s'en mêle dans ma tête. Mais on a vu aussi émerger ces dernières années dans les médias français des espèces de débuts d'accusations contre des personnalités politiques ou médiatiques. Et puis, faute de suffisamment de preuves, de suffisamment de témoignages, finalement, ça retombait à plat et ça avait un effet finalement inverse. Pour préparer la table ronde, j'ai lu She Said, le livre des deux reporters du New York Times qui ont sorti l'affaire Harvey Weinstein. C'est incroyable de voir le nombre de précautions qu'elles ont prises, les témoins qu'elles ont vus deux fois, trois fois, quatre fois, même Weinstein qui a pu relire tout ce qui avait été dit, qui a été interpellé, etc. Enfin, c'est un travail énorme. Quel degré de solidité en fait doit avoir une enquête avant d'être sortie? Et je me tourne à nouveau vers toi, Marine, qui en a sorti un petit paquet.
Déjà, il faut expliquer quelque chose qui peut nous paraître évident et qui ne l'est pas forcément pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, mais c'est qu'il doit y avoir une place dans ces enquêtes pour le contradictoire.
Ouais.
Que c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile à accepter pour les personnes victimes, mais qu'on explique toujours. Ça veut dire quoi concrètement? C'est que quand on a amassé tous les éléments qui peuvent être des témoignages, des documents, etc., on se tourne ensuite vers la personne qui est mise en cause. Ça veut dire qu'on lui fait une demande d'entretien. Souvent, je dois dire, dans ces affaires-là, elle est refusée, que ce soit par lui ou ses avocats. Donc ensuite, je fais par exemple une liste de questions. Donc une liste de questions, ce n'est pas 2-3 questions. C'est 50-60 questions parfois, ultra détaillées, pour donner tous les éléments à cette personne, pour qu'elle puisse nous répondre, se défendre, expliquer, etc. Souvent, on n'a pas de réponse à ces questions. Et souvent, la personne, ensuite, va faire un communiqué de ses avocats après l'article pour expliquer que quand même, présomption d'innocence, que quand même, toutes ces accusations dans l'espace médiatique, c'est n'importe quoi, et que, bien sûr, ils contestent. En général, ça fait 5 lignes. Ce qui donne l'impression que nous, on n'a pas essayé d'obtenir ces réponses. Ce n'est pas le cas. Et je pense à ça sur Roman Polanski, je pense à ça sur des tas d'enquêtes où on a écrit. Et donc, en fait, ça donne un effet un petit peu bizarre, alors qu'on essaie d'avoir ces réponses. Donc, c'est important d'expliquer qu'on la recherche, cette parole. Et le mis en cause, il a le droit à la parole, il a le droit de venir donner des éléments, mais souvent, il ne les donne pas. Après, en dehors de ça, il y a un élément qui me semble crucial, c'est ce qu'on appelle les témoins. Par témoin, j'entends autant confident que témoin direct de choses. Ça veut dire les gens à qui les personnes victimes ont pu se confier à des époques différentes, ce qui permet de montrer la constance dans le récit, la réitération des accusations, mais aussi des petits détails, comment se sentait telle personne juste après les faits ou après, longtemps après. Et ça, pour nous, c'est hyper important et c'est la première chose qu'on fait. Quand on recueille le témoignage d'une personne, on lui dit tout de suite à qui vous vous êtes confié. Et souvent, elle s'est confiée. Est-ce qu'il y a eu des messages, des SMS, des mails qui montrent tout ça? Donc, tout ça, ça n'apparaît pas d'ailleurs forcément dans les articles, mais pour la phase d'enquête, c'est hyper important et c'est ce qui fait un peu notre base factuelle assez solide. Moi, je défends que ces enquêtes ne sont pas forcément du parole contre parole, ouais. Qu'on peut en fait recueillir un certain nombre de choses, et c'est vrai d'ailleurs dans un autre genre, des enquêtes policières et judiciaires. Il y a des éléments qu'on peut obtenir. Il y a des SMS, il y a des lettres, il y a des rapports médicaux, il y a des photos, il y a plein de choses en fait. Mais pour moi, le plus important, c'est les témoins. Et le problème aujourd'hui encore, c'est que les témoins se dérobent souvent à cette responsabilité qui, pour moi, relève d'un devoir de citoyen en fait. Et souvent, les réponses qu'on a dans ces enquêtes, c'est ça ne nous regarde pas, c'est du privé, c'est des coucheries. Ou alors j'ai entendu des choses comme c'est pas Weinstein quand même. Donc bon, ça, c'est devenu une sorte de thermomètre, hein, Weinstein. depuis 4 ans, c'est terrible.
Il y a combien sur le baromètre?
Donc voilà, moi j'ai des souvenirs de témoins dont je savais qu'ils savaient des choses. J'avais même des fois des mails. Et quand je les questionnais, ils me disaient qu'ils ne savaient rien. Et quand je rappelais un mois après en disant « Écoutez, moi, j'ai un mail, en fait, donc je ne comprends pas pourquoi vous me dites que... » Voilà, il n'y a rien. Il y avait un déni. Donc parfois, moi, j'assume de bousculer un peu ces témoins aussi en leur disant « Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas dire. » Ou « Pourquoi vous ne voulez pas mettre votre nom ?» Parce que moi, je comprends l'anonymat pour les victimes. Mmh. Je le comprends moins pour les témoins quand il n'y a pas de représailles. Hein. Je parle face à des mis en cause qui n'ont pas des moyens de représailles professionnelles ou autres. Et là, ça m'interroge. Ouais. Et c'est une discussion que j'ai beaucoup eue dans l'enquête autour du témoignage d'Adèle Haenel, parce que beaucoup de gens, au départ, ne voulaient pas figurer avec leur nom. Mmh. À la fin, tout le monde a son nom, et ça a été, je dirais, c'est ce qui m'a pris le plus de temps dans cette affaire. Mais je trouve que c'est important, parce que véhiculer l'idée qu'il faut se retrancher derrière l'anonymat quand on est témoin dans ces affaires, je ne comprends pas bien. Mais le rôle des témoins, il est crucial. Et je dois dire que plus on explique ça, nous, dans les émissions, dans nos articles ou autres, plus, en fait, y a des gens qui, du coup, nous écrivent en tant que témoins sur des affaires, en disant « Voilà, moi, j'ai connaissance de tels éléments. Est-ce que ça peut vous intéresser? Est-ce que ça peut intéresser ?» Et on ne peut pas tout attendre des victimes, des personnes victimes, hommes ou femmes, voilà, des enfants qui n'auraient pas assez parlé, trop parlé, voilà, pas au bon moment, pas comme il faut, pas dans la justice. Bon, à un moment donné, il faut que chacun, à son échelle, prenne ses responsabilités. Donc, sans témoin, il n'y a pas d'enquête. Et sans contradictoire non plus, il n'y a pas d'enquête. Donc, c'est une phase à part entière de nos enquêtes. Et encore une fois, il y a beaucoup d'enquêtes qu'on ne publie pas. Je sais que c'est quelque chose qui est invisible, mais ça nous arrive tous les jours, en fait. Et bien sûr que c'est difficile, mais moi, il n'y a pas 3 mois qui se passent sans que je mette une enquête à la poubelle, ou en tout cas en stand-by. Voilà, Gérald Darmanin, j'ai commencé à travailler à l'été 2017. On a assumé de rien publier parce qu'on estimait que ce qu'on avait là n'était pas suffisant et que ça fragilisait aussi la plaignante elle-même. Parce que si ces enquêtes,
c'est ça, l'enjeu,
ne sont pas assez fortes, la première personne qu'on fragilise en dehors de notre travail et du journal, etc., c'est évidemment la personne qui témoigne et qui, derrière, va se prendre un backlash énorme. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce travail-là.
Mmh. Ça vous fait réagir, Lorraine, Daphné, sur cette... C'est presque un protocole, le mot protocole, comme on peut l'employer dans la médecine ou dans la justice, ne me semble pas exagéré pour qualifier toutes ces règles qu'il faut mettre en œuvre pour avoir une enquête fiable et efficace.
Bien sûr, il faut être extrêmement rigoureux. Et comme Marine, où il y a des enquêtes qu'on n'a pas pu sortir, et ça fait mal au cœur, mais on n'avait pas assez d'éléments, et ça aurait pu détruire les victimes qui en parlaient derrière. Et en fait, on leur explique, on leur dit, c'est vrai que c'est là où on n'est pas la justice non plus, c'est que parfois, on n'a pas assez d'éléments, et on n'a pas les moyens d'en avoir d'autres, et on a beau avoir tiré les fils dans tous les sens, on n'a pas suffisamment de choses, et on ne peut pas publier, et c'est un crève-cœur. Mais on discute beaucoup avec les personnes victimes à ce moment-là, et elles comprennent, et on ne ferme pas vraiment les dossiers, on se dit, il est là. Peut-être qu'un jour, parce qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup d'appels d'air et beaucoup de personnes qui, par le canal des médias, parlent davantage. Peut-être qu'il y a une autre victime qui va nous contacter et qui va nous dire, moi aussi, j'ai subi ou j'ai connu cette personne et ça nous est arrivé. C'est-à-dire que c'est des matchs terribles, hein, mais ça nous est arrivé de voir qu'on a des personnes qui nous avaient contactés par des canaux différents et qui avaient été victimes du même agresseur. Donc voilà, on a toujours des archives sauvegardées en de multiples exemplaires au cas où ça ressorte. Mais il faut être très rigoureux et le contradictoire est la phase la plus cruciale, que ce soit dans l'église ou dans le sport. Nous, sur chaque enquête qu'on a sortie, sur chaque cas, on a contacté la personne condamné ou qui était en cours de procédure et parfois on a obtenu des réponses en revanche, notamment étonnamment dans l'église on a eu beaucoup de prêtres condamnés ou accusés d'agression sexuelle qui nous ont parlé et c'était aussi intéressant puisque ça nous a confirmé des choses, ça nous a apporté des informations et on a compris que eux aussi parfois avaient prévenu leur hiérarchie, je parle des prêtres ils avaient prévenu leurs évêques qu'ils avaient un problème. Et leurs évêques les avaient maintenus en poste. Et c'est là où ça nous a permis d'analyser toute la mécanique du silence qu'il y avait dans l'Église. Et sans faire ce contradictoire, on aurait compris la moitié du problème. Donc, dans le sport, on a fait la même chose. On a pris beaucoup plus de murs dans le sport. Et beaucoup plus de déni de la part des entraîneurs condamnés ou accusés. Mais ça nous permettait de remonter ensuite jusqu'à la hiérarchie, jusqu'aux fédérations. Et c'est pour ça que c'est essentiel, parce que parfois aussi, sur des malentendus, les personnes avec qui on fait le contradictoire nous donne des infos et des documents, en pensant qu'on a tout et nous confirme finalement des choses.
J'ai en mémoire un mail que vous lisez à un moment où vous recevez un message, je ne sais plus, c'est la direction pédagogique de la région qui dit « Oui, mais dans les cours de gymnastique, c'est normal de toucher les corps des enfants, ils font des galipettes et on est là, je sais. »
C'était effectivement un fonctionnaire qui avait été informé d'attouchement d'un professeur de gymnastique et qui disait « Mais on ne savait pas trop parce que c'est possible que la main glisse sous le t-shirt et touche la peau parce qu'il y a des roulades. » Quand il y a des roulades.
Et en fait, il le répète plusieurs fois ce mot, je ne me rappelle jamais.
Ouais. Et ça, c'était une des alertes ignorées dans cette affaire. On est toujours dans le Tarn-et-Garonne. Et cette personne, en plus, est fonctionnaire. Et dans le code pénal, les fonctionnaires qui sont informés de faits d'attouchement sont obligés de le signaler. Et ils ne l'avaient pas fait à l'époque. C'était une des multiples alertes dans cette histoire qui n'ont pas été entendues, qui ont été ignorées et qui ont fait que cet homme a continué d'écumer les clubs sportifs et les périodes extrascolaires pour faire de la gymnastique. Donc oui, il y a effectivement des documents. Et cet homme, d'ailleurs, je l'ai contacté. Il m'a répondu et il m'a dit « Oui, c'est vrai que j'ai dit ça à l'époque. » Il a reconnu aussi sa méconnaissance, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de méconnaissance, souvent. Donc il y a une chaîne de l'information qui déraille en général, mais aussi une chaîne de responsabilité. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas quoi faire. Des signaux et des alertes des familles, et qui les mettent sous le tapis, en ne sachant pas quel est le processus. Et en fait, certains le reconnaissent.
Finalement, MeToo, à l'origine, c'est une enquête de journaliste, et puis finalement, ça devient un hashtag. MeToo inceste, c'est en train d'émerger comme un hashtag qui permet à beaucoup de personnes de prendre la parole de façon anonyme, mais qui n'auront forcément pas le même impact qu'une enquête journalistique qui dure plusieurs mois. Quelle analyse tu portes, toi, par exemple, là-dessus, Axel? Où se situe la force de l'impact, en fait?
Alors, déjà, on a besoin de tout le monde.
Ouais.
En fait, moi, j'ai besoin de Marine Turki. J'ai besoin de toi, Daphné. J'ai besoin de toi.
Et on a besoin de vous.
Oui, et j'ai besoin de toi, Charlotte. En fait,
moi, non. C'est...
Pardon. Mais tu vois, c'est un mouvement collectif qui est nécessaire déjà pour arriver à éradiquer tout ça, parce que nous, toutes seules dans notre coin, on ne va pas y arriver. Et ce que Marine Turquie appelle les témoins, moi, c'est ce que j'appelle l'entourage, en tant que personne victime. Ça changerait tellement de choses si nos entourages voulaient bien déjà prendre la responsabilité, Lorraine. Voilà, clairement. Et je pense que c'est peut-être la chose la plus... je parle pour moi, en tout cas. Je pense que c'est la chose la plus brutale et la plus violente, en fait, dans cette histoire-là, dans ces histoires-là, souvent, pour beaucoup d'entre nous. C'est la complicité plus ou moins déclarée des entourages.
Notamment des mères, hein, que tu explores assez largement. Des mères,
que moi, voilà, qui m'intéressent beaucoup, et pas pour stigmatiser les mères, pour qu'on prenne conscience que une mère, c'est aussi une fille et c'est une femme et c'est un parcours de vie qu'on devient mère avec les histoires qui sont les nôtres, avec les environnements dans lesquels on a grandi. Et ces environnements peuvent prédisposer à une répétition malsaine ensuite. C'est pas pour dire les mères, elles sont méchantes et elles sont vilaines et à roue sur les mères. C'est si on arrive à comprendre, on est des féministes autour de cette table. Et pour moi, le premier sujet qui devrait nous occuper toutes, c'est le féminin et c'est la manière dont on l'incarne. Comment est-ce qu'on l'incarne à titre individuel et puis à titre collectif? Quels sont les rapports entre nous toutes, avant même tout le reste? Je veux comprendre comment est-ce que ces dispositifs peuvent se mettre en place avec parfois la complicité de certaines d'entre nous. Mais cette complicité, elle résulte d'une histoire qui les a précédés. Et il faut qu'on s'intéresse à cette histoire-là. Mmh.
Moi, je ne peux pas m'empêcher de remarquer qu'on a beau parler sans cesse de viol partout, ce qui déclenche la vraie discussion, c'est les actrices d'Hollywood, c'est Adèle Haenel. On a beau parler d'inceste tout le temps, ce qui va déclencher la discussion, c'est le livre de Camille Kouchner. Est-ce que toutes les paroles se valent, à ton avis?
Intrinsèquement, sans doute, médiatiquement, évidemment que manifestement pas du tout. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée ces 6 derniers mois, parce que le podcast, Ou peut-être une nuit, il est sorti le 15 septembre, et on a eu beaucoup de presse, etc., mais on a eu un type de presse particulier, la presse qui parle déjà de podcast, ou de la presse qui s'intéresse au sujet de fond, etc. Et on avait contacté des télés pour dire, voilà, on sort ça, si ça vous intéresse, les émissions médias, ce genre de choses. Et on avait eu beaucoup de retours qui étaient, alors là, vraiment, on sort du Covid, c'est la rentrée des classes, c'est quand même un peu difficile, vraiment, l'inceste, non, je crois pas. Y compris des journalistes, et je leur jette absolument pas la pierre, parce que j'ai trop travaillé le sujet pour ça, mais qui m'ont dit, moi, je pourrais pas l'écouter, je vais pas l'écouter, mais sympa de l'avoir envoyé, hein, mais non. Et du coup, il y a eu une première vie du podcast entre septembre et début janvier. Et quand l'affaire Duhamel a commencé, quand Camille Kouchner a publié La Familia Grande, tout à coup, toutes les télés ont appelé chez Louis pour dire « Ah, ce serait vraiment super, il paraît que vous avez sorti un podcast il y a 4 mois, et puis que c'était vachement bien. » Alors, je ne l'ai pas écouté, mais quand même...
Pareil pour toi, Axel, hein, d'ailleurs, ça a relancé ton podcast aussi. Hein.
Et bon, je m'en plains pas, enfin, je veux dire, mais c'est hyper intéressant et assez fascinant quand on est dedans de mesurer ce qui peut intéresser tel ou tel type de média. Et sur un niveau un petit peu différent, moi, il y a aussi des gens qui m'ont dit, y compris, des proches, par exemple, qui avaient écouté en septembre, qui n'avaient pas osé partager, alors qu'ils m'avaient, quand je dis partager, c'est sur leurs réseaux sociaux ou envoyer des mails à leurs copains ou ce genre de choses, alors même que c'est des gens dont je sais qu'ils avaient apprécié, que ça les avait touchés, etc. Mais ils avaient l'impression que c'était un peu gênant d'envoyer ça. Un peu honteux. Et que moi, ce que j'ai constaté à partir de janvier, c'était que c'était beaucoup moins honteux d'en parler, et notamment sur les réseaux sociaux. Il y a eu un effet impressionnant d'énormément d'influenceurs ou d'influenceuses ou de comptes féministes qui ont l'habitude de traiter d'un certain nombre de sujets et qui, tout à coup, s'autorisaient à prononcer ce mot d'inceste, à faire des posts entiers, des stories entières sur la pédocriminalité, etc. Et je pense que ce à quoi sert aussi ce hashtag et cette prise de parole collective, c'est à sortir un peu plus chaque parole de la honte et du coup à autoriser un peu plus le discours des personnes qui étaient un peu plus enracinées dans le silence, quoi. Parce que j'ai l'impression que ce silence dans lequel on vit tous et toutes, puisque c'est un des lits du patriarcat ou une des couvertures, je ne sais pas, c'est que ça nous enracine et que c'est un travail de chaque jour de déraciner, pardon pour ces métaphores gênantes, mais de déraciner un peu plus à chaque fois ce silence. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un prend la parole, elle permet un peu plus de déraciner ce silence, quoi. Et je pense que c'est à ça que sert ce hashtag aussi. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point on n'a jamais fini d'en sortir. Et nous, on en a parlé, Lorraine, toi et moi, dans d'autres circonstances, de à quel point parfois on croit qu'on est sorti de certaines problématiques, et en fait, non. Et moi, quand le podcast est sorti, parce que ce n'est pas mon histoire, et que moi, j'ai quand même grandi dans une famille très heureuse, très bienveillante, etc.
Celle de ta maman, quand même.
C'est celle de ma mère, ouais. Mais du coup, toujours parce que je dois croire. Mais j'étais persuadée d'être... Et puis j'avais passé 2 ans à travailler dessus, donc j'étais persuadée quand même que c'était assez digéré, cette affaire. Et le jour où le podcast est sorti, j'ai eu honte, comme jamais dans ma vie j'ai eu honte, quoi. Et en plus avec la honte d'avoir honte, qui était vraiment super. Et ça faisait des mois que j'attendais ça, parce que quand on travaille longtemps sur un projet, on a envie que ça sorte, on a envie que... Et en fait, j'avais pas mesuré à quel point j'étais encore, moi, agie par ce silence. Et de la même manière, j'ai constaté à quel point, en faisant le podcast, j'avais un peu peur de replonger ma mère dans des choses qui étaient... un peu loin d'elle, et j'avais peur de lui faire du mal.
Culpabilité, tu veux dire? Culpabilité.
Non, mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop quand même. Elle a pas loin de... Enfin, elle a un peu plus de 65 ans, et on ne sait pas ce que ça fait de remuer des choses d'il y a 50 ans et ça. Et en fait, ça lui a fait un bien fou. Et je me suis dit, c'est incroyable quand même que parler aussi longtemps après, alors même qu'elle avait déjà parlé à mon père il y a 50 ans, à nous il y a à peu près 10 ans en moyenne, à ses frères et sœurs du coup, juste avant la sortie du podcast pour les préparer. Et en fait, on a jamais fini de déraciner ce silence-là. Et je pense que la prise de parole collective, elle peut être très difficile pour les victimes. Et moi, il y a beaucoup de personnes que j'ai interviewées qui m'ont appelé pour me dire je dors plus, j'ai mal partout, je peux plus aller travailler, etc. C'est sûr, et effectivement, c'est intéressant qu'on en parle. Mais il y a aussi beaucoup de gens à qui ça permet de continuer de sortir de ce silence. Et ouais, c'est une sortie perpétuelle, quoi.
Ouais, Marine.
Juste pour revenir, alors déjà, je suis d'accord sur le côté, c'est jamais le moment de parler de ça. Alors, l'inceste, j'en parle même pas, mais moi, je sais que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on m'a dit t'es sûre quand même, c'est pas très drôle, hein.
Ouais.
T'es sûre que c'est à toi de faire ça.
Marine.
Voilà, et puis quand on commence à en parler, c'est jamais le moment. Et ce que je voulais dire sur le début de ta question, c'est que si on prend les affaires qui ont été assez marquantes ces 2 dernières années en France, on s'aperçoit que ce sont à chaque fois des femmes avec un certain statut social, ouais. Des femmes blanches, ouais. Qui ont pu, à travers un livre ou à travers un média, raconter leur histoire. Et qu'à chaque fois, ça concernait des faits lorsqu'elles étaient mineures ou enfants. Adèle Haenel, Vanessa Springora, Camille Kouchner dans son livre, Sarah Abitbol. Donc moi, ça me questionne quand même aujourd'hui sur quid des autres paroles. Des femmes qui ont vécu des choses ou des hommes victimes, mais à un âge qui n'est pas celui de la petite enfance ou de l'enfance ou mineure, et puis surtout du statut social. On a reçu beaucoup de mails, de dossiers après le papier Adèle Haenel, de gens qui étaient aussi très fâchés parce que ils n'auront pas une enquête de 7 mois. Ils n'auront pas la justice qui, 2 jours après, ouvre une enquête et qui, 2 mois et demi après, met Christophe Rougier en examen. Donc ça suscite beaucoup de colère, et je l'entends. Et je trouve que ça doit quand même nous poser la question, est-ce que les choses changent vraiment? Est-ce qu'on entend quand même vraiment toutes les paroles? Et surtout, qu'est-ce qu'on tire comme conséquence de tout ça, y compris journalistiquement? C'est-à-dire que c'est un empilement d'affaires depuis plusieurs années. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une analyse qui est faite de tout ça, des systèmes de complicité, de silence qu'on décrit depuis tout à l'heure ensemble et qui sous-tendent ces affaires, de la question de l'abus de pouvoir, de la question de la parole entendue ou pas? Bon, voilà. Est-ce que vraiment il se passe quelque chose et que même journalistiquement, on analyse tout ça? Et c'est pas si facile, parce qu'on a beau dire qu'il y a des choses qu'on n'entend plus. Quand il y a certaines affaires, ça revient toujours, mais bon, elle est folle, sans se demander si par ailleurs les violences qu'a subies la personne n'engendrent pas forcément des répercussions, un retentissement psychologique, sans se demander si c'est pas un stéréotype quand même complètement sexiste de dire que forcément elle est folle et hystérique. Enfin, et je sais pas si on apprend vraiment de tout ça, j'ose espérer que oui, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait des récits... avec un retentissement médiatique important de gens qui ne sont pas blancs favorisés.
sans parler des manquements des médias en général, parce que là, on est bien sympa à notre table entre féministes ayant produit mais de l'énergie et du temps et de l'argent dans ces sujets-là, mais globalement, on a affaire à un mépris absolu des médias français pour les questions concernant les violences masculines, le viol en général. Enfin, je sais pas, Marine, d'ailleurs, t'as fait un état des lieux assez sidérant. T'as fait un papier qui était assez vraiment génial, que j'ai cité dans le bouquin présent, où tu fais vraiment le bilan de la réaction française à MeToo, enfin, entre chroniques mondaines où on se moque des actrices qui ont porté plainte, où on minimise les actes, enfin, on en est là, je sais pas, ça fait réagir quelqu'un. Quelqu'un a envie de se faire les médias français, c'est open bar.
Quelqu'un a envie de perdre son boulot.
Il y a un problème dans le langage, en fait. Il y a un problème dans la compréhension de ces sujets, et c'est pas un scoop, hein. En France, on n'est pas franchement en avance là-dessus. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, au sein de tous les médias, il y a des gens un peu conscientisés, un peu formés sur ces sujets, et ça va diffuser, je l'espère.
Oui.
C'est sans doute trop lent, mais c'est quelque chose qui est en train de se passer. Nous, je sais que, grâce à ma collègue Lénaïque Bredou, on a eu des enquêtes sur ce sujet bien avant MeToo, dès 2010-2011. Et c'est quelque chose qui infuse dans la rédaction, et aujourd'hui, c'est des sujets dont s'emparent un peu tous les services. Et donc, en fait, il n'y a pas une rubricarde violence sexuelle, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui doit traverser les services. Il y a aussi des hommes qui sont partis des enquêtes chez nous, et c'est très bien. Et je pense que ça va se faire dans un petit peu tous les médias. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de journalisme d'opinion qui fait un petit peu n'importe quoi, et qui, je trouve, nuit à ce travail qu'on essaie de faire d'enquête sérieux sur tout ça, avec des préjugés, avec finalement très peu de connaissances de ces sujets. Et c'est beaucoup les éditorialistes qui sont sur ces propos.
Et puis donc qui vont faire du bruit derrière avec un tweet.
Donc ça, c'est un problème. Après, depuis MeToo, il y a des rédactions qui se sont dit « Mais tiens, en fait, c'est bankable de travailler là-dessus. » Bon, après, il y a eu Nicolas Hulot. Donc là, ça a été un énorme frein. Tout le monde s'est dit « Ouh là là, c'est un peu n'importe quoi. »
Un début d'embryon d'affaires qui a été pseudo-sorti, voilà. Mais mal sorti, et puis qui a fait un flop, finalement.
Mais la vérité, ouais. C'est qu'il faut que toutes les rédactions mettent des moyens sur ces enquêtes-là. Et oui, c'est pas rentable, en fait, parce que bien sûr que quand on commence une affaire, on ne sait pas si on va la terminer, encore une fois. Comme je disais tout à l'heure, donc c'est des moyens financiers, c'est des moyens de temps, d'effectifs. Il faut un petit peu, effectivement, se former sur ces sujets, mais je pense que c'est essentiel. Et quand il y aura ces enquêtes, et quand tout le monde sera un petit peu confronté à ce sujet, nous, par exemple, c'est des sujets dont on débat dans notre réunion du service enquête tous les lundis, et c'est important que ce ne soit pas une réunion à part. C'est quelque chose qui doit concerner tout le monde, et je pense que ça forme aussi un petit peu les gens, et ça les sensibilise de pouvoir travailler là-dessus ou d'entendre parler de ça. Donc je pense qu'en France, il faut que ça avance de ce côté-là, et aussi, il faut donner du temps aux journalistes pour le faire.
Excel.
Le facteur de la représentativité est forcément un facteur, moi, qui m'interpelle beaucoup. Clairement, là, au jour d'aujourd'hui, lorsque MeToo Inceste a émergé, moi, j'ai réagi sur les réseaux sociaux parce qu'il y a un tweet que j'ai vu passer qui, pour moi, reflétait exactement le problème qu'on avait. Il était émis par un jeune homme noir qui disait, avec deux émojis pleurant de rire, il n'y a que des babtous dans ce hashtag.
Mmh. Babtous, ça veut dire blanc.
Blanc, pardon, excusez-moi.
Précise.
Donc, il n'y a que des blancs dans ce hashtag avec deux émojis morts de rire. Donc, déjà, vous avez un problème parce que vous ne voyez pas bien d'où vient le mort de rire. Puisque ça concerne, même s'il n'y avait que des blancs dans le hashtag en question, des adultes qui se sont permis d'agresser des enfants de leur famille. Donc déjà là, vous vous dites, il te manque deux neurones, gars. Donc c'est pas possible. Mais le fait qu'il dise ça découlait aussi du fait que, effectivement, il y avait un groupe de personnes qu'on ne voyait pas dans ces témoignages. Et il y en a eu très peu dans ce MeToo Inceste. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se pose vraiment les bonnes questions. C'est est-ce que ce qui est dit aujourd'hui sur ces questions-là est capable d'atteindre absolument tout le monde ? On parlait des ouvrages qui sont sortis et des témoignages de femmes victimes de violences dans l'enfance pour une Adèle Haenel, pour une Camille Kouchner, pour une Vanessa Springora, pour toutes celles en fait là qui ont témoigné sur les trois dernières années. Moi, je n'ai pas trouvé un seul récit en librairie qui serait celui d'une femme noire victime de violences dans l'enfance.
D'ailleurs, ton podcast, tu voulais en faire un livre à l'origine.
Le podcast existe. Voilà, parce que à l'origine, ça devait être un récit, ça devait être le mien, et que j'ai eu affaire à des interlocuteurs qui, au choix, m'ont demandé d'écrire plutôt quelque chose sur la différence entre le féminisme blanc et le féminisme noir. Puisque j'étais noire, j'étais la bonne personne pour parler de discrimination, et en l'occurrence de parler de féminisme, mais à l'aune d'un féminisme blanc. Ou, vous savez, ce que j'ai rencontré moi il y a 3 ans, quand j'ai lancé Mima Sex and I, lorsque je suis arrivée en disant que je voulais parler de l'intimité des femmes noires, ça n'était pas considéré comme un sujet pour mes interlocuteurs. Qu'est-ce que l'intime pouvait refléter de singulier à propos de femmes noires? Ce n'était pas un sujet. Donc, quand on part de choses comme ça, et qu'on veut vraiment éradiquer les maux de notre société, il faut juste qu'on s'assure que tout le monde prend part à cette conversation. Je ne demande pas l'aumône, je ne suis pas en train de déconsidérer tous les contenus qui ont émergé aujourd'hui sur ces questions-là. Mais si vous voulez qu'on y parvienne, il faut vraiment qu'on s'assure que tout le monde fait partie de la conversation. Et s'assurer que tout le monde fait partie de la conversation, c'est s'assurer que quand on fait un article, quand on fait un plateau télé, quand on fait une émission de radio, on prenne bien la peine de dire dans cette conversation, nous représentons un groupe, nous ne représentons pas la majorité du groupe. Il y a encore des voix qui sont absentes. On espère que ce que nous sommes en train de faire vont permettre à ces voix-là d'émerger. Parce qu'on n'y arrivera pas, en fait, si on n'y est pas tous, on n'y arrivera pas. C'est impossible qu'on y parvienne.
Cette question de la représentation, Lorraine, c'est des questions qui se posent en termes concrets au monde, par exemple, quand on couvre ces questions-là, ou alors dans le documentaire sur le féminicide, où il y a notamment une famille arménienne, hein, la dernière famille du documentaire.
C'est quelque chose, ce dont tu parles, Axel, c'est une question qui m'obsède. En fait, on parle énormément de crise de la représentativité dans le politique, mais je pense que dans les médias, il y a la même question à se poser, d'à quel point nous, on peut aussi confisquer certains accès et à quel point on arrive à être transversaux, parce qu'on reste des tuyaux, en fait. Désolée de parler des tuyaux. Enfin, je suis un tuyau, je ne vais pas parler pour les
super.
Autres.
Mais revendiquons-nous tuyaux. Je trouve que c'est super.
Mais on est porte-parole au sens premier du terme, et en fait, on a un pouvoir
colossal.
Qui est colossal. Et moi, j'y pense souvent, et je me dis, mais j'ai mon habitus de jeune femme blanche née dans un certain milieu, je suis ce tuyau là, et où est-ce que je vais me brancher?
Daphné, une dernière réaction sur les médias, leurs responsabilités.
Oui, bien sûr. Je pense que sur cette question-là qui nous touche, l'inceste, les féminicides, les violences sexuelles, j'ose espérer qu'il y a une première couche de tabou qui a sauté, mais il y en a une deuxième. Je me suis posé moi la question beaucoup dans les enquêtes sur l'Église, où on avait dans les personnes victimes à 98% des hommes. Et les femmes ne parlaient pas encore. J'ai dû avoir 2 témoignages de femmes. Pourtant, on sait que dans les lieux où il y a des religieuses, il y a aussi des violences sexuelles. Donc je pense qu'on n'est qu'au début. Il va falloir faire sauter ce deuxième verrou. Et c'est difficile de savoir effectivement où aller chercher ces témoignages. Nous, on s'est heurté à ça et on en avait conscience. On a été très soutenus par Mediapart. On a publié l'essentiel de cette enquête sur l'Église. Et on avait cette discussion, mais où sont les femmes? Il y avait ce côté-là. Et puis, c'est vrai que dans le sport, c'était un peu plus... C'est triste, mais c'était un peu plus équilibré. Il y avait beaucoup de femmes victimes et peut-être 40% d'hommes dans les personnes victimes qui nous contactaient. Mais je dis bien qui nous contactaient ou qu'on retrouvait par des canaux particuliers. Pour ce qui est de la représentativité, on avait quelques affaires en Outre-mer, par exemple, où on avait une variété de témoignages. Mais sinon, effectivement, on a essentiellement des personnes blanches. Et je me suis posé beaucoup la question. Comment faire pour aller chercher cette parole-là? Et je me suis posé la question aussi s'il n'y a pas un double tabou. Et c'est pour ça que je suis curieuse de voir dans les prochaines années ce qui va en ressortir. Moi, je suis un peu plus optimiste. Je me dis que j'espère que dans l'histoire de notre société, on va regarder la fin des années 2010 et le début des années 2020 comme une période de bascule. Et j'espère qu'il y a la suite qui va arriver. Parce qu'on voit quand même qu'il y a un effet domino phénoménal. Ça a commencé peut-être avec le harcèlement de rue, il y a eu aussi l'Église, puis il y a eu la politique avec l'affaire Baupin sur Mediapart, puis le cinéma, le sport. Aujourd'hui, on parle de l'inceste dans les familles, enfin. Et j'ose espérer que cet effet domino qui dure quand même depuis quelques années maintenant c'est le début vraiment de quelque chose. On va pouvoir faire sauter les autres tabous et avoir beaucoup plus de représentativité dans les personnes victimes de ces violences-là.
Ouais, après, le couvercle est lourd, le backlash est fort et ça me permet d'enchaîner facilement vers la dernière question que je voulais vous poser à chacune d'entre vous. Moi, personnellement, je viens de passer 3 jours là, en immersion dans vos travaux. J'hésite entre la corde et... non, je rigole. Mais je suis vraiment... C'est lourd, c'est terriblement lourd et voilà, vous avez été celle qui avait rencontré les familles de victimes, les victimes elles-mêmes. On a été de l'intime au politique. J'aimerais qu'on revienne à l'intime. Comment vous prenez soin de vous en tant que personne qui recueillait ces témoignages? Est-ce que vous le faites d'ailleurs? Je vais commencer avec toi, Axel, qui est très experte de ces questions. Tu m'as appris à prendre soin de moi.
Ouais,
je te remercie. Mais est-ce que tu le fais pour toi?
Tu connais l'histoire du cordonnier, le plumage chaussé, tout ça. Pour l'instant, non. C'est Charlotte qui parlait tout à l'heure des témoins qu'elle avait eus qui lui disaient que physiquement, ils avaient bien senti passer après avoir témoigné chez toi. Moi, ça a été mon cas. Vous êtes bien placée chez Nouvelles Écoutes pour le savoir. C'est encore physiquement très, très, très inscrit dans tous mes tissus. Je n'ai pas encore baissé la garde parce que je suis toujours sur la brèche maintenant parce que je suis devenue une personne à laquelle d'autres personnes victimes de ça se confient. Donc ça s'arrête pas. Je sais pas comment est-ce que Charlotte gère ça, mais elle nous en parlera peut-être tout à l'heure. Je suis toujours dedans. Au moment où je te parle. Ma grande chance, moi, c'est que j'avais fait tout un travail avant d'entreprendre le podcast de reconstruction par rapport à ma propre histoire. Ce qui m'habite, moi, aujourd'hui, c'est l'histoire des autres et l'envie de trouver un moyen pour que cette parole-là, pour que cette parole, en tout cas au sein des communautés noires, soit entendue, acceptable et relayée. Donc, je suis pas détente, toujours pas, en fait.
Charlotte, je sais que tu es encore tu es encore dans le sujet parce que tu es en train d'en faire un livre. Désolée de te le rappeler. Elle se plie en deux sur sa chaise en se tenant le ventre pendant que je lui dis ça. Est-ce que t'as mis au point des stratégies pour te protéger physiquement, mentalement de ces sujets qui te touchaient en plus un peu directement?
Alors non, j'ai pas du tout mis au point de stratégie. Si vous en avez, je prends, mais j'ai pas pris le sujet tellement comme ça. Moi, j'ai recommencé une thérapie quand j'ai commencé le podcast il y a 2 ans, et c'était bien. Je pense que c'était utile. Donc je fais ça. Enfin, je veux dire. Et après, effectivement, je continue de recevoir, comme Axel, des témoignages tous les jours, plus ou moins détaillés de ce que telle ou telle personne a subi. Quand le podcast est sorti, dans les jours qui ont suivi, j'ai répondu à tout le monde. Et tout le monde, les premiers jours de la sortie, c'était vraiment beaucoup de monde. Après, j'ai répondu aux personnes qui me semblaient être dans une détresse plus importante que d'autres, qui demandaient de l'aide, quoi. Et puis après, c'est vrai que j'ai plus trop répondu. Et moi, j'alterne entre ces choses-là, quoi, d'essayer de gérer comment rester une personne bien moralement, de pas laisser tomber des gens qui demandent de l'aide, et du coup de gérer ma culpabilité et le fait de pas devenir folle, quoi. Et ou même sans ça, parce que je pense que je j'ai pas trop de terrain pour ça, mais juste de pas souffrir trop tout le temps. Et puis je me raconte à tort ou à raison que je servirai à rien si je vais trop mal et que je pourrai plus jamais faire de podcast et que je pourrai plus jamais rien écrire. Donc bon, enfin, si le
t'as pas à te justifier d'aller bien, hein, Charlotte. On a envie que tu sois en bonne santé, même si tu
fais
plus de podcast.
Je trouve que c'est compliqué parce que quand on est journaliste, enfin, je sais pas ce que vont dire nos 3 concerts qui restent après, mais on n'est pas trop dans cette question là je trouve, de comment on prend soin de soi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris à l'école. C'est pas quelque chose c'est pas quelque chose qui est très présent dans notre fonctionnement, donc enfin en tout cas dans le mien. Donc j'ai pas du tout à l'esprit cette question. Je pense que j'essaie de naviguer sur un fil et je pense pas mal ces derniers temps à un truc que Sonia Kronlund, qui est productrice des Pieds sur Terre sur France Culture, avait dit une fois à une table ronde où j'étais. Je disais oh là là, parfois il fallait que j'arrête de faire du montage quand je sentais que j'étais au bord des larmes, et elle m'avait dit ah oui, mais moi, avec l'expérience, en fait, je sentais qu'il fallait que j'arrête le montage quand je ressentais plus rien, alors que les gens racontaient leur viol et que je me disais « si on laissait une demi-seconde de silence de plus, ça ferait mieux ». Et en fait, je pense que je suis aussi passée par ces états-là et que ces états-là, ils sont très dangereux et pour soi et pour le travail qu'on fait, quoi.
Lorraine, ton documentaire m'a particulièrement plombée. J'imagine que de le faire, c'était bien pire. Comment...
Moi, je suis désolée de t'avoir plombé, c'était. Mais moi, je trouve ça difficile et je rejoins Charlotte sur le fait qu'il y a, pour l'instant, malheureusement, aucune réflexion dans les médias sur qu'est-ce qui arrive aux journalistes qui travaillent là-dessus. Quand mon documentaire est sorti, j'ai un ami qui a réalisé beaucoup de sujets pour Cache Investigation, qui a publié sur son bien Facebook le documentaire en disant bah voilà, il y en a qui reviennent de la guerre du bout du monde, mais ça c'est la guerre en bas de chez vous. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je dis beaucoup au journal pour le coup, c'est que la négligence qu'on a sur le fait que, auprès des journalistes qui sont exposés à ces sujets-là, elle est en fait directement liée à la négligence qu'on a sur le sujet tout court. Parce que, par exemple, si on pense que le féminicide, c'est pas très grave, le fait de travailler sur les féminicides, c'est pas très grave. Alors qu'en fait, si, ces travaux-là ont eu un... Enfin, je pense que j'en suis qu'au début de comprendre l'impact que ça a eu sur moi, sur ma vie, sur ma vision du monde, sur mon rapport aux hommes, sur mes émotions, sur tout un tas de choses. Au journal, il y a Cécile Prieur, notamment, qui est plus maintenant qui dirige l'Obs, mais qui avait été l'une des premières à comprendre ça, et qui avait fait venir une psychologue pour qu'on puisse un peu en parler. Et ça, ça avait été assez nouveau, assez déstabilisant pour plein de gens, mais moi, j'avais trouvé ça assez intéressant, qui est un tout début, encore très embryonnaire, de réflexion autour de ce que... Ben, c'est même pas moi qui le dis, c'est les psychiatres qui parlent de traumatisme vicariant. C'est-à-dire qu'on peut être traumatisé pas tant en première exposition aux faits, mais exposé au récit des faits. Et que parfois, la charge traumatique des gens peut être si forte que juste le récit va transférer toute l'intensité traumatique. Et on peut être autant carbonisé que si on avait vécu le fait. Et c'est ce qui arrive à tout un tas de psy, notamment, de policiers, de magistrats, de journalistes aussi. Et je pense qu'il y a vraiment un enjeu de beaucoup plus penser et réfléchir aux gens qui travaillent sur ces sujets-là.
Daphné ?
Alors moi, déjà, je suis assez impressionnée par ce qu'a fait Axel, parce que c'est quand même une mise en abîme incroyable. Je ne sais pas comment tu fais, parce que moi, en étant que journaliste et pas la première concernée, on vit déjà avec un nuage noir au-dessus de la tête. Il faut avoir les épaules pour ce genre d'histoire. Donc, énorme respect. Et pareil pour Charlotte, qui est concernée au deuxième degré. Je trouve que, voilà, respect. Tout simplement parce que c'est des sujets lourds, effectivement pas pris en compte. Et en plus, moi, je suis journaliste indépendante. Donc, je vous laisse imaginer ce côté-là. Mais j'ai eu beaucoup de chance. C'est que j'ai travaillé avec Mathieu Martinière et Mathieu Péris sur l'Église, puis avec Mathieu Martinière sur le sport. Donc, on était une équipe. Et je pense qu'on a eu conscience de cette fragilité qu'on avait. Et on avait, moi je me rappellerai toujours aussi, une personne qui nous a contactés, qui travaille dans les médias, qui était réalisatrice, qui elle-même avait été victime de violences sexuelles, et qui m'avait dit, mais au début de notre enquête sur l'Église, il y a 5 ans, mais vous êtes fous, faites-vous suivre, faites attention au choc post-traumatique. Je ne me suis pas fait suivre, mais j'ai toujours eu cette petite phrase dans la tête où je me suis dit, attention, peut-être que je vais m'embourber dans quelque chose qui est plus grand que moi. Et en plus, nous, on a eu une méthode journalistique particulière, c'est qu'on a eu, on a cherché un maximum d'affaires, que ce soit dans l'Église ou dans le sport, pendant des années, on sortait tout d'un coup. Donc en plus, on a eu cette accumulation de témoignages, des centaines de victimes, et on allait rencontrer des agresseurs, des prêtres agresseurs, des entraîneurs. Donc c'est vrai que, clairement, moi j'ai eu des soirs, je suis rentrée chez moi, j'avais envie de vomir. Mais en même temps, il y a un truc qui nous a toujours fait tenir, donc je ne me plains absolument pas, c'est qu'en face, on avait des victimes qui vivaient des choses bien pires. Et ça, on le garde aussi toujours dans un coin de sa tête. Et les moments où on se dit, mais en fait, je sais pourquoi je le fais, c'est quand les personnes nous disent, merci, vous m'avez rendu ma dignité. Alors là, je peux vous dire que ça vous fout par terre. Et vous dites, OK, les petits sacrifices là que j'ai faits, c'est rien en fait, ça valait le coup. Et c'est ça qui donne énergie. Pour être tout à fait honnête, j'ai quand même dû faire une pause entre l'enquête sur l'église qui a duré près de 3 ans pour Mediapart, notamment, les caches investigations et l'enquête dans le sport. J'ai dû faire une pause un moment parce que j'ai eu ce que tu disais, Charlotte. Ce côté, un moment où dans les derniers entretiens, j'avais une technicité, je pense comme un chirurgien.
Qui vous voit plus, en
ouais,
fait.
Comme, qui ne regarde plus le corps humain comme un être, mais comme un objet d'étude. Et en fait, je commençais à sentir que je savais ce que les personnes victimes allaient me raconter, parce que c'est quand même des schémas récurrents. Et là, je me suis dit, j'ai une sonnette d'alarme, où je me suis dit, je crois qu'il est temps de faire une pause, parce que là, je vais commencer à desservir ce combat. Et ça tombait bien, j'ai traité d'autres sujets, et je ne pensais pas être en mesure d'y retourner. Et en fait, donc à It Disclose, on a eu cette opportunité de travailler sur le sport et d'appliquer la même méthode. Et en fait, j'avais, voilà, après une phase d'aération, j'ai eu l'énergie, et parce qu'on était en collectif, d'y retourner. Après, j'ai aussi développé un humour noir assez terrible.
Aussi, comme les chirurgiens.
Que je ne partagerai pas avec vous.
On le garde pour l'intime, celui-là, ouais. Marine.
Moi, quand j'ai commencé à travailler sur les violences sexuelles, je sortais quand même de 10 ans de couverture d'extrême droite que j'ai jugé plus dur que le travail que je fais actuellement, parce que je prenais des coups au vrai sens du terme. Donc du coup, ça m'a paru... je voyais des gens qui étaient contents de me voir. C'est-à-dire, j'avais une utilité, je ne me faisais pas envoyer des cailloux dans la gueule. Donc déjà, je me sentais utile. Et par ailleurs, je trouve que notre place qui est la nôtre sur ces sujets de journaliste et pas d'association ou d'avocate, ou... Ben, en fait, on a un impact. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on publie un article, ça va avoir un impact. L'histoire, elle va exister. Quel que soit ce qui va se passer sur le terrain judiciaire ou autre, l'affaire, elle va sortir. Enfin, en tout cas, quand elle aboutit. Donc ça, c'est un premier point. L'autre chose, c'est que moi, quand on me dit « mais c'est pas trop dur de travailler là-dessus », moi, je trouve que c'est pas les enquêtes qu'on fait qui sont le plus dures, c'est celles qu'on va pas faire. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces témoignages qu'on reçoit, et vraiment, j'insiste, parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte de la quantité de dossiers qu'on reçoit. Moi, après,
je crois que tu en as reçu 600, hein, c'est ça, après Adèle Haenel.
Ouais, et c'est quelque chose qui continue. Et quand il y a des moments d'actualité importants sur le sujet, et c'est le cas là depuis un mois, c'est terrible. C'est plusieurs dossiers. Là, on va rallumer le téléphone, ça va être plusieurs dossiers pendant qu'on parle, qu'on a reçus, qu'on reçoit au journal. Et donc ça, je trouve que c'est difficile parce qu'on doit faire des choix. On doit choisir les affaires qu'on va traiter, celles qu'on ne va pas traiter. Moi, j'essaie vraiment, dans la mesure du possible, à 90% de répondre aux gens parce que je sais la difficulté pour les gens de nous écrire. C'est-à-dire que les gens vont arriver, ils vont sonner à Mediapart avec un dossier. Ça fait peut-être 6 mois que cette personne, elle se dit « Allez, j'y vais, j'appuie sur « Envoyer » dans le mail où je me présente chez Mediapart et je veux que la journaliste elle ait mon dossier. » Et j'espère tout de ça. Et il faut comprendre, et moi je pense que c'est pour ça qu'on doit leur répondre dans la mesure du possible. Je dis ça, bon, évidemment, des gens vont écrire ensuite en disant « elle ne m'a pas répondu, moi ». Mais j'essaie vraiment de répondre parce que je sais tout ça. Mais à côté de ça, ce qui me semble important, et on a la chance à Mediapart de l'avoir, c'est d'avoir un accompagnement de la direction. On a la chance d'avoir cet encadrement, et donc derrière un article, en fait, il y a plein de gens. Parce qu'en fait, à des étages différents, on va rentrer de rendez-vous, on va aller un peu tout raconter, et puis on va confronter, on va prendre des décisions ensemble, et c'est jamais une personne qui est seule avec tout ça. C'est collectif. Il y a ce côté de pas être seul face à ça. Ouais. Et je pense que dans beaucoup de rédactions, les gens sont trop seuls avec ça. Ouais. Moi, j'ai souvent des coups de fil de confrères ou consoeurs qui m'expliquent le truc et qui me disent « qu'est-ce que t'en penses ?» et je me dis « mais il n'y a pas de direction dans ces journaux, il n'y a pas de... » Donc je trouve que c'est important, y compris aussi beaucoup de journalistes freelance qui n'ont pas cet accompagnement-là et qui ont besoin un peu de soutien. Nous, on avait lancé, au moment de MeToo, un petit apéro, entre guillemets, avec de petites réunions régulières chaque semaine avec des journalistes qui travaillaient sur ces sujets dans différentes rédactions. Et c'était hyper intéressant de confronter un peu nos points de vue, nos expériences. Mais c'est vrai qu'en fait, nous, on a la chance d'avoir ça à la rédaction. Mais bien sûr qu'il y a de la culpabilité aussi à remuer toutes ces histoires dans les familles. Moi, j'ai vu des familles de personnes victimes imploser après ça. J'ai vu des groupes d'amis imploser. J'ai vu, voilà. Et ces conséquences-là, elles sont difficiles parce qu'on culpabilise de remuer tout ça. Et ça, il n'y a pas une enquête où je n'ai pas senti que... est-ce que je fais bien quand même de remuer tout ça? Donc nous, on dit toujours aux personnes qui viennent nous voir d'abord, aux personnes victimes, soyez ayez conscience que ça va être difficile.
Merci beaucoup. Je vais me faire un petit plaisir avec un dernier tour de table en vous demandant à chacune ce que ça évoque pour vous la poudre afin de boucler l'émission. Comme j'ai ce si beau plateau, ce serait quand même dommage de passer à côté. Je commence par toi, Charlotte. Je dois demander toi, Axel.
Mais moi, j'ai entendu tellement de réponses à la fin de chaque épisode, je ne sais pas comment inventer ma propre réponse, quoi. Donc, je ne sais pas, moi, maintenant, ça me fait vraiment penser à Boom, quoi, au patriarcat qui saute.
Mmh. Parfait.
Ben moi, ça me fait penser à ce qui est le cœur de notre métier d'enquête, c'est-à-dire en fait de cacher ce qui est dissimulé, de faire sauter tout ce qui est dissimulé. Et donc, la poudre, c'est faire sauter toute cette omerta.
Oui, pour moi, c'est l'étincelle au début d'un combat, quoi. Et en plus, je trouve qu'il y a le chic dans cette émission de parler de sujets durs, cruciaux, et avec ce côté un peu plus, comment dire, convivial. On peut parler de sujets de société importants en restant sans sombrer dans le pathos non plus. Et ça, je trouve que c'est la force de l'émission.
Merci, Daphné. Lorraine.
Moi, la poudre, ça me fait penser à tout un tas de petits morceaux. Enfin, c'est ce que j'ai beaucoup ressenti avec les personnes victimes de traumatismes, que ça soit les proches de féminicides ou même dans les dossiers de violences sexuelles. Je me souviens d'une personne victime qui m'avait dit ça, qui m'avait parlé du traumatisme et du fait que toutes ces années après, elle était encore en train d'essayer de ramasser les morceaux d'elle collés sur les murs pour redevenir quelqu'un. Et l'idée que je me fais, moi, de notre métier en tant que journaliste, c'est que, en fait, la violence, ça vient quand il n'y a plus de sens. Et que nous, on fait un travail de narration. Donc, on retisse les fils du sens. Et en fait, nous, à notre petite échelle, on aide ces gens-là à ramasser les morceaux d'eux-mêmes collés sur les murs pour essayer de redevenir quelqu'un. Et moi, l'idée que nous, tout autour de cette table, chacune à notre manière, dans les médias où on est, avec les armes qu'on a, dans les systèmes qui sont différents, on fasse quand même conjointement ce boulot de rassemblement, je trouve ça assez joli.
C'est magnifique, merci Lorraine. Axel.
Parfait, merci Lorraine. Moi, ça me fait penser au lien, en fait. J'allais vous dire, c'est nous toutes là, aujourd'hui, autour de ce micro, sur cette thématique-là. Et c'est la possibilité de faire sens et de faire du lien avec du sens, mais un sens un sens qui serait digne pour toutes. Et pour tous aussi, parce qu'il y a aussi, bien sûr, des hommes qui sont concernés par les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui. Des garçons, en l'occurrence, et des petits garçons. Et là, c'est... en fait, on contribue à une humanité commune. Et merci à toutes, vraiment. Ouais.
Merci infiniment à toutes les cinq. C'était super agréable d'échanger avec vous pour de vrai.
Merci Lorraine.
Ça va ?
C'était intense.
Bon courage pour le montage.
Merci à Lorraine Defouché, Daphné Gastaldi, Charlotte Pulowski, Axel Jahenjike et à Marine Turki d'être venue faire parler la poudre avec moi. Et merci à Longueur d'onde d'avoir permis à cette rencontre de se produire. La Poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Marty pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre Lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.